Laurent de Wilde et pas de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz Interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Jazz Interview sur Art District Radio, et c'est l'heure de la carte blanche à Fred Blanc.
Bonjour Andy.
Bonjour.
Donc aujourd'hui pour Art District Radio, on va discuter un petit peu et on va échanger sur les 30 ans du Mega Octet et de la sortie du nouveau disque.
D'accord.
Donc Andy Emler, qui c'est ? En face de moi, c'est un homme jovial avec une longue queue de cheval blanche, une sorte de bon vivant.
Oui, on peut dire ça, oui.
Dès sa plus tendre enfance, le petit Andy est au piano, puis à peine majeur, il crée un groupe de rock.
Ouais, c'est vrai.
C'est un musicien qui est classique, jazz, rock, hard rock, électro.
Ouais, il y a un peu de tout ça.
Qui a réalisé des albums à foison depuis les années 80.
Oui, on a commencé dans les années 80, oui.
C'est un compositeur qui a reçu différentes récompenses, comme les Victoires de la Musique, le prix SACEM ou le Django d'Or, dont certains plusieurs fois.
Oui, absolument.
C'est un expérimentationniste, je ne sais pas si le mot existe, mais ça me plaisait bien,
ouais.
Qui est toujours à l'affût des nouvelles aventures. Aujourd'hui, celle d'interpréter des morceaux sur des orgues dans des églises.
Absolument, c'est une nouvelle expérience qui a commencé il y a quelques années.
C'est un personnage humble qui a traversé différents mondes, différentes modes, différents styles de musique et de technique.
Oui, on peut dire ça aussi. Le champ est assez vaste.
C'est un chef de bande qui est aimé de tous les musiciens avec qui il a collaboré. Et il y en a beaucoup, Guyen Lee, Thomas de Pourcry, Médéric Polignon et bien d'autres.
Bien sûr, bien sûr.
C'est un éternel enfant qui cherche sans cesse, qui a décidé de réapprendre à jouer du piano parce qu'il dit qu'il vit un conflit trop complexe entre certains de ses doigts. Il va falloir que vous m'expliquiez cela parce qu'on s'est vu au Triton avec Benjamin Mousset dans un genre de battle musical plutôt exceptionnel avec deux pianos.
Oui.
Moi, je ne comprends pas bien cette idée que vous avez des problèmes et que vous ne vous sentez pas pianiste.
Bon,
on en reparlera tout à l'heure.
D'accord.
C'est un pédagogue qui aime transmettre, mettre sur la voie de jeunes professionnels comme des amateurs, voire même de composer pour eux.
Absolument, régulièrement, depuis des années, ça, oui, absolument.
C'est un copain qui aime, qui est un ami généreux, qui se fait plaisir à faire plaisir en écrivant des musiques pour les gens qu'il aime.
Ouais.
C'est une sorte de personnage multifacette, indéfinissable, en fait. Mais qui est réellement Andy Emler ? Et je pense que la personne à qui je peux mieux poser la question, c'est Andy. Alors Andy, c'est
oui.
Qui Emler ?
C'est difficile de parler de soi comme ça, mais c'est juste un parcours, quoi, un parcours de musicien, comme il y en a des millions d'autres. Hein, ce n'est que de la musique, et très humblement, mon chemin, moi, m'a propulsé dans différents parcours, en fait. Il y a à la fois l'envie, en effet, j'étais à peine majeur, même pas d'ailleurs, quand j'ai commencé à monter des groupes. D'abord, c'était pour faire danser des rockers. Le samedi soir, on nous prêtait une salle et je jouais avec des gens qui avaient 21, 22 ans. Moi, j'en avais 16. Et je jouais de l'orgue et de la guitare électrique sur les reprises.
Alors, l'orgue existait déjà à l'époque.
Alors, c'était l'orgue rock, quoi. Un petit orgue rock avec une guitare électrique et on jouait des reprises de Johnny B. Goode, de Santana, de toutes ces musiques qui ont fait nos jeunes années. Et c'est n'est qu'après, en fait, que j'ai fait à la fois le parcours classique du Conservatoire de Paris en écriture, dans les classes d'écriture, harmonie, contrepoint, orchestration et autres. Et parallèlement à ça, j'ai toujours aussi improvisé et joué dans des groupes et écrit de la musique pour des groupes.
Et vous aviez déjà ce fameux professeur qui vous a ouvert les yeux quand vous étiez tout petit.
Alors oui, ça, c'est quand j'avais 17 ans, mais j'ai eu la chance de tomber, en effet, après une professeure de piano qui a été un désastre. Qui me disait que son mari me hantait alors qu'il était mort dans mon placard si je ne travaillais pas le piano quand j'étais petit.
C'est bien.
Oh là là, c'était un désastre.
Vous aviez quel âge à l'époque ?
Moi, j'avais 5-6 ans à l'époque.
Ah, super. Alors, pour faire des cauchemars,
c'est génial. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi je pleurais la nuit. C'était bien. Non, je suis tombé sur une organiste, en fait, une dernière descendante d'une grande famille d'organistes. Il faut savoir que dans l'histoire de la musique, les organistes ont toujours été des improvisateurs. Donc le fait que moi, j'arrive et que je balbutie sur un piano quelques improvisations ne la choquait absolument pas. Et elle m'a fait mangé énormément de musique, parce qu'il existait, il existe toujours peut-être, les arrangements de toutes les symphonies de Mozart, de Beethoven, de Schumann, pour deux pianos. Et comme elle avait deux pianos dans la même pièce, le cours de piano se passait à déchiffrer de la musique, à avaler de la musique, parce que je n'étais pas un interprète. Elle a vite compris que je n'avais pas la patience de l'interprète. J'écris de la musique pour les autres, mais quand il s'agit de jouer mes propres partitions, alors là, c'est un problème. Ça rejoint ce problème de pianiste dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, ce parcours à la fois de gens... Je n'avais jamais touché un orgue, alors qu'elle était professeure d'orgue, et ce n'est que bien plus tard que les opportunités se sont présentées. Mais d'être avec un professeur qui vous laisse libre de la musique, c'est un privilège extraordinaire, parce que c'est comme ça qu'on fait ses armes. Quand on joue la 9e de Beethoven à deux pianos, entre le chœur et l'orchestre symphonique, il y a trop de voix, alors on est obligé de se débrouiller. On fait ce qu'on appelle presque de la réduction de la partition, parce qu'on n'a que 10 doigts pour tout jouer, et on apprend à se débrouiller. Voilà, c'est ça. Et la pratique en groupe aussi, quand on fait du bal et qu'on commence à faire danser les gens, et ça se finissait en bagarre, et on rangeait le matériel et on foutait le camp, parce qu'on n'avait pas être impliqué là-dedans, c'était toujours des trucs invraisemblables. Mais on apprend à se débrouiller et à fonctionner au réflexe. Et ça, c'est une pratique en groupe qui est... C'est une pratique d'autodidacte, mais qui est essentielle pour savoir jouer ensemble. Beaucoup de musiciens travaillent énormément leur instrument chez eux, et puis quand ils sont en groupe, ils ont un problème d'écoute, de jouer avec les autres, parce que c'est une habitude qu'il faut prendre. Et si on se perd, il faut se rattraper, et le tempo, lui, ne doit pas bouger, donc de toute façon, ça trace. Donc voilà, c'est un peu l'école de la débrouillardise, ces groupes de rock. Et donc, moi, j'étais fan de ces groupes comme Led Zeppelin, les Who, Emerson, Lake and Palmer. J'ai écouté les Stones, les Beatles, grâce à mon grand frère. Et donc, ça m'a emmené vers plutôt cette musique, cette culture rock-pop des années 60-70.
Donc, c'est un mélange de Beethoven d'un côté, des Rolling Stones de l'autre.
Absolument, absolument.
Avec, a priori, de l'orgue et du piano.
Oui.
La guitare.
La guitare un peu aussi, bien sûr.
Des instruments.
Moi, la guitare, parce que, en fait, j'adore la bossa nova, j'adore ces compositeurs brésiliens. Et donc, avec une guitare sèche à la maison, mon frère avait commencé la guitare parce qu'il y avait un prof qui venait de temps en temps, mais il a arrêté, donc la guitare était là. Et quand on a une belle harmonie sur un piano, on se dit comment on l'a joué à la guitare, et on apprend tout seul les positions d'accords, et je me faisais mes bossas, les Jobim, les Luis Bonfa. Et...
Donc, vous n'êtes pas du tout musicien.
Du tout, du tout. C'était vraiment à la fois l'apprentissage autodidacte, parallèlement à un apprentissage. Oui, ben c'est ça, c'est l'oreille qui a permis justement de jouer avec les autres. Quand je commençais à repiquer Led Zeppelin ou des morceaux de folk ou de Crosby, Stills, Nash & Young et qu'on jouait ça avec des copains à la guitare, on s'éclatait.
Donc, le jazz, il est venu à quel moment ?
Beaucoup plus tard. Mes parents avaient un ou deux disques de Louis Armstrong, mais c'était... Ils n'étaient pas dans la musique, ils écoutaient la musique de divertissement. On va dire ça comme ça. À l'époque, c'était des grands orchestres comme Ray Conniff, Frank Purcell, qui reprenaient des chansons à l'orchestre symphonique. Et c'était un peu leur culture. Mais ma mère avait joué du piano et aimait bien le jazz. Mais c'est vraiment au Conservatoire de Paris, quand je suis rentré après le bac, j'ai découvert les Chick Corea, les Keith Jarrett et surtout un musicien formidable qui s'appelle Antoine Hervé, avec qui j'ai fait mes classes, avec qui nous avons monté un duo, avec qui nous avons monté une boîte de production. On a commencé le métier ensemble.
Et vous travaillez toujours ensemble ?
Non, non. On a arrêté quelques années après. Chacun est parti sur son chemin.
Chacun avec son piano ?
Oui. Lui est un formidable pédagogue aussi qui fait beaucoup de leçons sur le jazz. Il est un formidable jazzman. Moi, je tombe dans la classe d'harmonie, il faut voir la situation.
Il est venu une fois au sein des jazz club, mais côté
public.
Public.
Ouais, d'accord. Tu rentres dans une classe d'écriture avec ce protocole du Conservatoire de Paris à l'époque, tout le monde entoure le professeur, et à la pause, t'entends un gars qui joue Oscar Peterson tel quel, et qui a 18 ans ou 19 ans. Moi, j'avais jamais vu ça. C'était très, très impressionnant. Et j'adore le jazz, donc forcément, j'ai été séduit. Mais parallèlement à ce parcours, un pote de mon frangin, qui est médecin, qui était un fanatique et qui vient toujours au concert, m'a fait écouter un disque de Chick Corea. Ça s'appelait Return to Forever, le groupe. Et ces gens-là ont inventé quelque chose à cette époque-là. Dans les années 70, ceux qui sortaient de chez Miles Davis, que ce soit John McLaughlin avec Mahavishnu Orchestra, que ce soit Keith Jarrett, que ce soit Chick Corea avec Return to Forever, Herbie Hancock avec ses groupes et sa musique, tous sont passés chez Miles, et j'oublie le plus important, qui m'a beaucoup influencé, Joe Zawinul et Wayne Shorter dans Weather Report. Et là, je te cite 5 groupes qui ont inventé 5 musiques différentes, alors qu'ils jouaient tous ensemble avec Miles Davis. C'est assez incroyable. Et cette musique m'a énormément influencé, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier.
Bah alors, on va arriver sur le premier morceau de ton nouvel album, celui qui rappelle que ça fait 30 ans maintenant que le groupe existe. Donc, sur E-Total, on va aller à la minute 8 minutes 30 jusqu'à 11 minutes 30 parce que le morceau fait plus de 17 minutes.
Ah oui, d'accord.
On va même aller découper des petits morceaux.
C'est pratique pour les radios, ça.
Et donc, on va lancer le morceau. Donc voilà, donc moi je me suis fait un petit amusement, c'est j'ai essayé de me remettre dans l'ambiance de cette musique. Et voilà, pour moi, en écoutant cette musique, j'ai été embarqué dans un doux soufflement qui s'étire, un appel au souffle qui pourra être peut-être sauvé, a priori, ou jamais. Puis d'un seul coup, me voilà poussé dans une folie totale, entre crispation et déstabilisation, avant de descendre, de redescendre, et que le problème d'essoufflement se résolve par lui-même.
C'est joli.
Voilà ce que j'ai ressenti dans ces 3 minutes. Alors peut-être que c'est très très loin de ce que tu as écrit.
Non, parce qu'en fait, je pense que tu as choisi le solo de saxophone de Thomas Porcury. Quand je parlais d'écrire pour les gens qu'on connaît, tu dis ça tout à l'heure, Thomas, je sais qu'il aime bien ce voyage qui part de zéro, qui part du rien, et qui va créer son discours là-dessus, en totale liberté. Je vais faire rentrer une rythmique qui reste en totale liberté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme en jazz, une grille, il n'y a pas d'harmonie, il y a juste une fondamentale, c'est pour ça que ça s'appelle mi total. Ça veut dire qu'on est en mi, mais qu'on peut faire tout ce qu'on veut par-dessus.
D'accord.
Donc c'est une totale liberté, c'est la feuille blanche avec son cadre. Et à partir de là, on va aller vers de l'harmonie, vers une grille plutôt, comme on peut le voir dans le jazz, un chemin harmonique, et Thomas aime beaucoup ça aussi. Donc je lui ai donné les 3 situations pour faire évoluer son discours. et qui va arriver sur ce qu'on appelle en musique classique une cadence, comme un concerto, c'est-à-dire que l'orchestre s'arrête et laisse le soliste s'exprimer pour finalement faire la coda, faire le final avec l'orchestre. D'accord. Voilà, c'est un chemin que Thomas apprécie particulièrement, c'est pour ça que je l'avais écrit pour lui.
Donc effectivement, quand on t'entend parler, on sent qu'il y a une vraie passion qui t'accompagne au quotidien et qui est loin des plateaux télé, de cette musique commerciale aux vedettes, comme tu l'as dit, un peu interchangeable.
Oui, c'est deux mondes. Là,
mais dans les mots que tu utilises, on entend des mots comme orchestre, grand orchestre, laboratoire, expérience multiple ou pièce. C'est pas vraiment un vocabulaire de jazz, ça.
Non, parce que je n'estime pas que je suis un jazzman. On nous catégorie, en France, on a tendance toujours à mettre les gens dans des étiquettes. Il n'y a pas que dans la musique. Hein. Ça rassure souvent. Je pense que c'est un faux chemin. On fait tout à l'envers. C'est au contraire proposer l'ouverture d'esprit, proposer le choix, le libre choix, le choix d'être libre. C'est là où ça devient intéressant. Or, le formatage en disant ben, « lui, il est jazz, lui, il est classique, lui, machin », ça a toujours existé et c'est extrêmement frustrant. Je te prends un exemple très simple. J'ai écrit pour le théâtre un répertoire à la manière de Ravel, où je mêle de l'improvisation avec des partitions écrites à la manière d'eux, ce qui se faisait beaucoup au début du XXe siècle. Et je vends ça, par exemple, à un festival de jazz. On me dit « c'est du classique, monsieur ». Et si je vends ça à un festival de piano classique, oui, Ravel, mais monsieur Himmler, vous êtes jazz. Tu vois ce que je veux dire ?
Justement, par rapport à ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que, si on prend justement trois couleurs ou trois esprits de musique, ce que Bach, la musique classique, t'a apporté, ce que le rock t'a apporté, et ce que l'électro t'a apporté par rapport à ça.
Électro, j'emploierai pas ce terme parce que maintenant, ça définit une musique. Quand on dit électro, ça définit un style. Le XXe siècle, l'électricité a permis à toute une génération d'inventer des choses depuis les Beatles jusqu'à nos jours, et plein de styles. Donc oui, la musique électrique aussi, bien sûr. Mais Bach swing, Bach groove, comme c'est pas permis.
Avec une structure de mathématicien.
Et pourtant avec une structure de mathématicien, qu'il était aussi, d'ailleurs. Il devait venir du futur, lui, c'est pas possible, tu vois. Et en même temps, tu retrouves cette exigence dans l'écriture moderne. Tu retrouves aussi l'aspect improvisateur, puisqu'il est organiste, il écrit énormément pour l'orgue. Moi, j'ai eu toutes ces influences parce que, voilà, c'est les musiques que j'aime. On est dans un monde, et le XXe siècle a inventé tellement de choses avec le jazz en plus, les musiques électriques, la pop, le rock, le machin, que forcément, on a touché à tout ça. Donc on n'est ni jazz, ni rock, ni machin, on est juste un musicien qui fait...
Quelque part, c'est ça qui t'a apporté une genre de libre expression.
Mais total. Et la connaissance aussi, parce que c'est intéressant de mettre le nez dans la musique classique quand on l'aime. Moi j'ai eu la chance, en faisant des classes d'écriture, d'apprendre à écrire à la manière de Debussy, de Ravel, Fauré, Schumann, Bach, Mozart. Et quand on met vraiment le nez dedans, c'est passionnant de voir ce qu'ils ont inventé, ces gens-là. Et donc, à partir de ces inventions, nous aussi, Bill Evans, par exemple, en jazz, a beaucoup écouté Ravel et a forcément été influencé dans son choix d'harmonie et autres.
Mais là, on est sur des influences, on n'est pas sur une forme de liberté. Toi, tu avais l'air de dire que, justement, la liberté, on arrivait à la trouver dans la composition plus que dans l'improvisation.
Alors, c'est les deux. C'est les deux, parce que la composition te donne un cadre ou un squelette. Tu en fais quelque chose, tu figes quelque chose sur un papier... Et à l'intérieur de ça, tu laisses des libertés. C'est le compromis entre les deux. D'ailleurs, quand on fait un concert du méga octet, les gens parfois se demandent où est l'improvisation, où est la partie écrite. Parce que si c'est bien fait, parfois on peut se poser la question.
Mais toi tout seul ?
Bien sûr, bien sûr.
C'est ce principal.
Mais heureusement, on sait où on va maintenant, le chemin qu'on prend. L'improvisateur est libre de prendre le chemin qu'il veut. Dans l'extrait que tu as choisi, Thomas de Porquerie fait le chemin qu'il choisit, lui. Et moi, je l'harmonise à l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a une totale liberté, même si c'est une fondamentale demi. Et là-dessus, si lui veut aller quelque part qui est totalement heavy metal ou totalement destroy ou totalement lyrique ou romantique, c'est son choix. Et nous le suivrons.
Mais alors comment tu fais quand tu reprends une musique et que tu dis, ben voilà, j'ai repris tel ou tel musicien, un ancien du méga octet qui vient nous rejoindre, et on a pris un morceau qu'on connaît très bien.
Oui.
Il est joué plein de fois, et pourtant, à chaque fois, il est joué différemment.
Le squelette reste le même, mais l'intérieur du morceau peut bouger, en effet.
Mais beaucoup.
Alors, dans ce disque, il y a par exemple un morceau avec Médéric Collignon.
Je crois qu'on va l'entendre tout à l'heure.
Oui, d'accord. On en parle tout à l'heure. Il y a une partie écrite, avant et après, et le milieu est totalement libre.
D'accord.
Et là, c'est pareil. C'est, une fois, il va t'emmener avec un solo de voix, ou une fois, il va prendre ses petits jouets, il va nous faire des sons pas possibles. Ou alors, il va prendre son cornet ou un bugle. Donc, en fonction de l'instrument qu'il a choisi, le chemin est forcément, la musique est forcément différente. D'accord. Même si elle reste quand même, attention, des musiques instrumentales que tu ne verras jamais en télévision, ni en radio, sauf à 4h du matin.
Alors, je sais aussi que tu es curieux de tout, et que les disciplines, la globalité des disciplines artistiques permettent d'enrichir le musicien que tu es. Mais comment tu pourrais expliquer que l'art plastique puisse enrichir un musicien ?
Bah, toute forme d'expression artistique sont des nourritures extérieures, toujours. Hein. Ma nourriture principale d'inspiration reste quand même l'humain.
L'humain ?
L'humain. C'est la rencontre avec les gens. C'est ça qui alimente totalement l'aspiration, j'ai envie de dire, le chemin qu'on choisit. Tu rencontres un soliste, tu rencontres un peintre, tu rencontres un poète, et puis tu l'écoutes et tu dis « Oh là là, c'est beau ce qu'il fait », et puis ça te donne des idées. Grâce à ma compagne, Anne-Jenny Clark, j'ai fait beaucoup de musées, parce que j'étais pas très connaisseur en peinture, et je m'intéressais un peu, sans plus. Et grâce à elle, quand tu as quelqu'un qui s'y connaît et que tu vas avoir des expositions, elle t'explique le chemin d'un Picasso qui a à 12-13 ans dessiné des choses absolument incroyables, ou des gens de l'art contemporain, des arts plastiques, qui te renversent une pissotière en l'appelant fontaine. Les gens qui ne connaissent pas vont dire bah, « c'est un charlatan, moi je peux faire ça aussi ». Mais non, parce qu'il y a un chemin. L'idée est venue d'un chemin, d'un apprentissage qui est artistique.
Mais c'est... l'art, c'est quand même, toi là, on arrive sur oui. un univers un petit peu plus que je connais.
Ah, oui.
L'art, c'est quand même une émotion. Si mais tu arrives face à la fin d'un chemin intellectuel et intelligent pour une non-émotion à la fin.
Ah ben, chacun le reçoit ou pas. Tu peux recevoir une émotion. Je connais quelqu'un qui va écouter ce même morceau et qui va ressentir absolument rien parce que cette personne écoute Nolwenn Leroy ou. Je ne sais quel artiste de variété chez Drucker le dimanche et n'écoute que cette musique-là. Et tout d'un coup, tu lui mets le méga en tête et elle va crier au fou. Mais par contre, j'ai des parents qui n'étaient pas branchés du tout musique. Un père qui était plutôt dans la variété, puisqu'il a découvert la musique de Jean-Michel Jarre et de Kléderman. Il me disait, c'est formidable. Alors que moi, je n'étais pas dans ce monde-là du tout. Mais il s'est mis à venir à des concerts. Il y a un apprentissage de l'oreille. Comme
oui,
il peut y avoir comme de l'œil pour la peinture.
Voilà,
pour
on
la...
parlait d'émotions, c'est parce que toi tu parles d'humains.
Alors voilà, il y a des humains qui me touchent et qui me donnent des idées. Quand tu vas à un concert et que tu sors en disant « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était bon ça !» Tu sors une espèce de grandi de quelque chose qui va tout de suite te donner envie d'aller jouer du piano ou d'aller écrire de la musique. Ou,
c'est voilà. drôle parce que moi j'ai justement l'impression qu'à chaque fois que tu déploies un projet... c'est une rencontre d'une équipe de solistes.
Oui, c'est ça.
Et que
bien
c'est
sûr.
Avec ces gens-là. Et donc, on est loin d'un genre de monobloc qui se rapprocherait d'un groupe de musique classique et d'un
bien
orchestre.
Bien sûr. La part d'improvisateur chez les uns et les autres dans ce métier que l'on fait ici en France fait qu'on a, pour pouvoir vivre de ce métier, besoin de faire beaucoup de choses. Ceux qui ne sont pas compositeurs, par exemple, qu'on appelle des sidemen, qui jouent dans 15 ou 20 groupes différents, parce qu'ils ont besoin d'avoir des cachets pour pouvoir être un metteur du spectacle. Après, on parle d'économie de ce métier, qui oblige le musicien à faire plein de choses, donc plein de rencontres. J'échappe pas à la règle, puisque je dois vivre de ce métier. Et c'est pas les commandes d'écriture qui me font vivre. On est obligé de se diversifier énormément. Donc, en effet, le fait de se diversifier énormément nous amène à rencontrer beaucoup de gens dans le monde artistique. J'ai rencontré une compagnie de danse qui fait un espèce de hip-hop moderne, breakdancing, et j'ai décidé de monter un projet méga octet et danse, parce que j'adore ce qu'ils font. Voilà, c'est comme ça. C'est, vivre sur la quille est dangereux en matière artistique, je pense.
Oui, mais je pense que les gens du méga octet ne vivent pas vraiment sur la quille.
Non, ce sont tous des solistes.
Ben justement, on va donc écouter le deuxième morceau sur les Yons sauvages.
Oui.
Donc le début avec quelqu'un que tu citais tout à l'heure, Médéric Collignon. Moi, j'ai été attrapé par une musique vocale interprétée par Médéric Collignon,
oui.
Où les sons qui sortent de sa bouche sont entre l'humain et l'animal, avant de devenir de véritables instruments de musique qui, petit à petit, vont se mélanger à l'orchestration musicale, qui m'a embarqué vraiment très.
Absolument.
Donc, alors, comme ça, c'est des superpositions, des effacements.
C'est bien dit. C'est bien dit, Himmler, bien sûr. c'est juste. Médéric Collignon est quelqu'un de très particulier, parce qu'il a une palette sonore absolument invraisemblable, vocalement déjà. Il y a plusieurs choses. Je sais que, par exemple, à l'époque, quand je l'ai rencontré, le directeur de la maîtrise de Radio France me disait que physiquement, ce qu'il faisait était hors du commun. C'était pas possible, physiquement. Or, il a travaillé ça. Il a travaillé une particularité vocale, même physique, qui lui permet de faire des sons que personne ne fait. Peut-être un Bobby McFerrin et encore, j'en suis pas sûr. Mais il y a ça, et il y a le fait que sur cet enregistrement-là, je crois qu'il traversait une période de santé difficile, il devait se faire opérer du cœur, je crois, juste après. Ouais, juste après ce concert. Donc il y a eu, dans cette magie-là, dans cette version-là...
Donc ça, c'est un enregistrement live ?
Oui, c'était au Festival de Nevers. Et je crois qu'il se faisait opérer deux jours après, ou trois jours après. Il y a une... On est un 11 novembre 2019. Et je crois que... Il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, parce que... Je ne sais pas pourquoi. On nous a fait confiance. Le directeur du festival nous a offert toute la soirée pour fêter les 30 ans de l'orchestre. C'est extrêmement rare. Les festivals, déjà, qui passent beaucoup de musique française, sont très rares. Et celui-là m'a fait confiance en me donnant toute la soirée. Donc on a le temps d'installer la musique. Avant d'avoir les invités, on a fait toute une partie Mega Octet sans les invités. Donc, on était tous dans le son, on était tous dans la musique, et il se passait un truc exceptionnel. Et les invités se sont mis dessus au même niveau. C'est-à-dire que Médéric, dès qu'il commence à envoyer les voix que tu as entendues au début, il cherche une idée. Il construit une idée, il construit un chemin. Il sait où il va aller et il prépare le rythme qu'il va chanter en beatbox avec le tempo pour que je puisse partir avec l'orchestre derrière.
D'accord. Oui, mais on voit bien, c'est ce que quand je parle de l'effacement.
Ah, c'est ça.
Mais il monte, et d'un seul coup, il disparaît.
C'est totalement prémédité. Il compose en temps réel. Voilà ce que je voulais dire. Voilà.
Alors justement, donc, ces 30 ans du Mega Octet, ça représente quoi pour toi?
Ah, j'ai pas vu le temps passer, quoi. C'est une formidable expérience parce que je pense qu'il y a, je sais pas combien, mais on doit être à 50, 60 musiciens qui sont passés par.
Justement, une formation qui dure 30 ans comme ça, avec des musiciens qui tournent, parce que c'est jamais les mêmes, même s'ils reviennent.
Oui, il y en a deux qui sont restés. C'est rare, oui, je sais qu'il paraît que c'est rare.
C'est un mode de fonctionnement particulier, parce que généralement, il y a 5 personnes, il y a peut-être un qui part, un qui revient de temps en temps, mais là, on a l'impression que ça.
Il y en a deux qui sont là depuis le début, Philippe Salam au saxophone alto et François Verlier aux percussions. Nguyen Le était là au début et est revenu comme invité. Mais non, je pense que c'est le projet. Si le projet intéresse les musiciens,
alors c'est quoi le projet?
Le projet, c'est l'écriture. Contrairement à des directeurs de festivals qui me demandent c'est quoi ton nouveau projet, je dis un nouveau répertoire du Mega Octet. Oui, mais c'est quoi le nouveau projet? Si je dis.
Ça veut rien dire, toi. Le nouveau projet il est vite de sens.
Je sais pas, moi, les compositeurs écrivent de la musique. On leur demandait pas à l'époque c'est quoi votre nouveau projet, quoi. Pour avoir le droit d'être joué. C'est invraisemblable, quoi. C'est invraisemblable. C'est que de la musique.
Et pourquoi t'as appelé ça Mega Octet?
Parce qu'à l'époque, on commençait l'informatique dans les fin des années 80 et le mot Mega Octet est apparu et je me suis dit, le monde entier va voir ce mot tous les jours sur son ordinateur ou autre et il pensera à nous. Ce que je savais pas, c'est que personne ne nous connaît et que ça sert à rien, mais bon.
Non, et puis en plus, on dit les méga, on dit pas des Mega Octet. Donc,
oui, bien sûr. Non, c'était juste l'idée de faire parler de nous. Il y avait un copain à l'époque qui avait intitulé son groupe Abus Dangereux. Pierre-Jean Gaucher, un guitariste. Parce qu'en effet, chaque fois qu'on voyait Abus Dangereux sur un paquet de cigarettes, on s'est dit, ça fait de la pub gratuite.
Et pour moi, quand on écoute des morceaux, c'est des morceaux souvent très longs.
Oui.
Où le bruit, le son, la voix sont tous présents.
Oui, absolument.
Et c'est quand même aussi très particulier du Mega Octet, non?
C'est des signatures, appelle ça des signatures, appelle ça, je sais pas. Ça fait partie du langage. Moi, je me pose pas la question de savoir quelle musique je dois écrire. J'écris ce que j'entends. Je cherche, je me documente. Je te prends un exemple très simple. Au moment où sort ce disque, on a enregistré il y a 2 semaines le nouveau répertoire du Mega Octet, qui m'a mis ce coup-ci presque 1 an à écrire et à remodeler, parce que j'ai beaucoup étudié pendant le confinement. Le confinement m'a donné l'occasion de passer 3 heures par jour sur l'ordinateur à lire des partitions de compositeurs du XXe siècle, à écouter leur musique, à étudier.
Et à rendre copain certains de tes doigts?
Non.
Non, tu es
non,
pas
non. Je suis pas un travailleur de l'instrument du tout.
Non, mais t'as dit que tu te mettais au piano.
Oui, parce que quand j'ai écrit ce répertoire sur Ravel, j'ai été obligé de le jouer. Et donc j'ai été obligé de travailler mes partitions comme un interprète. Et j'ai pris plaisir.
Donc tu vois, pour la première fois, tu es interprète.
Ouais, et ça commence à mûrir de plus en plus.
Et quand je t'ai vu à Caire, ou quand je te vois avec
Benjamin
Mousset ou avec d'autres,
ouais.
Tu es bien interprète, tu es bien au piano.
On est improvisateur, on ne joue pas de partition.
Tu es improvisateur.
Ouais, oui.
Donc tu es deux à toi tout seul, déjà rien que devant ton piano.
Bah oui, si tu veux, oui. Mais c'est vrai qu'à Caire, en trio, par exemple, avec Claude Chamichan et avec Echampin, il y a un peu de texte qu'on travaille ensemble. Donc oui, je travaille les choses parce que parfois j'écris de la musique et puis je m'aperçois que c'est difficile et qu'il faut le travailler pour bien le jouer. Alors je le fais. Dans le Mega Octet, j'écris des choses difficiles aussi. Et tout le monde le travaille. Et on a eu 2 remplaçants, par exemple, hier, qui sont venus pour un concert que nous faisons à la fin du mois. ils ont passé des heures à travailler les partitions avant d'arriver à la répétition pour être capable de les jouer tout de suite.
Oui, parce qu'ils ne sont pas dans le moule aussi de...
Non, mais ça veut dire que il y a le travail d'interprète, de toute façon, dès qu'il y a des partitions. Ça, c'est incontournable.
J'ai encore plein de questions à te poser. Malheureusement, on arrive déjà presque au temps limite, donc je vais aller vers la conclusion. Qu'est-ce que tu racontes dans cet album, dans le dernier ? Ça raconte quoi ?
Je raconte une histoire humaine, je raconte une histoire de rencontres qui ont été extrêmement enrichissantes pour tous et d'un moment privilégié où on a eu envie de le montrer, tous ensemble, à un public qui est un public d'un festival de jazz, donc qui est un public qui a des oreilles plus ou moins ouvertes à ces musiques déjà. Voilà. Parce qu'il est vrai que, pour conclure, on peut être chagriné du fait que nos musiques n'existent que dans certains milieux et ne sont pas diffusées plus parce qu'elles font du bien. Et la musique fait du bien, quelle qu'elle soit, la chanson aussi, il y a toutes. Mais je veux dire, je déplore que les médias ne s'intéressent qu'à un marché de la musique et non pas à la musique. Voilà.
Alors on va écouter le dernier morceau, c'est Just the Beginning. Donc cette fois, pour ceux qui ont le disque, qui auront le disque, parce qu'il faut absolument se le procurer, on va écouter entre le début et 3 minutes 30, 3 minutes 50.
D'accord.
Allons-y.
C'est bien le début alors, oui.
Même petit exercice, en écoutant cette musique-là, je suis plongé dans une ambiance sombre où un personnage apparaît sur la pointe des pieds, dans des mouvements de danse, et arrivent deux groupes rivaux, l'un espagnol, l'autre chinois. Ils se confrontent corporellement, puis au loin, je distingue un groupe à cheval qui vient participer à ce combat très organisé, où tout est exécuté dans les règles de l'art. Voilà,
oui,
ce que j'ai ressenti.
Tu devrais écrire des scénarii, même pour la danse aussi, parce que c'est très imagé.
C'est ce que j'ai entendu, ressenti, c'est que je voyais des mouvements comme ça.
C'est super d'avoir des images quand on écoute de la musique. d'avoir des sensations, d'émotions, mais en même temps de voir des images, de voir... toi, tu as vu deux bandes rivales comme un affrontement, alors qu'il y a...
Mais quelque chose d'organisé, c'est-à-dire que c'était,
oui,
très juste, il y avait pas, c'était pas cafouilleux du tout.
Bah, West Side Story.
Voilà.
Deux bandes qui dansent, qui mettent en scène une bagarre, qui est une chorégraphie. Il n'y a rien de violent, ce sont juste des danseurs qui se font plaisir. Mais avec un texte, avec un squelette qui est prévu, comme le solo de Nguyen Le aussi, parce que je sais qu'il est... je sais ce qu'il aime, Nguyen, aussi, depuis le temps qu'on se connaît. Et on remarquera simplement pour les techniciens que ce même morceau a un squelette un peu similaire à celui de Thomas de Porquerie de tout à l'heure.
D'accord.
Le premier morceau qu'on a écouté, qui est en mi total aussi, avec un chemin qui va monter de zéro à très loin et redescendre. Un peu le même cheminement que tout à l'heure.
Ok. Alors, si on veut écouter le disque... Il va sortir ou il est bien
vers
sorti.
Le 15 octobre, je crois.
Le 15 octobre. Si on a envie de venir voir en chair, en os, les humains.
On fera une sortie de ce disque dans un concert le 16 novembre à Paris, à un nouveau lieu qui s'appelle l'Espace 360 Music Factory.
Je crois que j'ai entendu.
Dans le 10e arrondissement.
Oui, tout à fait.
Et nous allons jouer avec le Méga Octet pour la sortie de ce disque.
Donc, on répète.
L'Espace 360 Music Factory. Dans le 10e arrondissement,
bon, bah, faut qu'on se
le 16 novembre. Voilà.
Bah, merci, Andy.
Merci.
À bientôt.